plus on descend profondément dans un puits, et plus il fait sombre. Voilà une belle palissade. Par contre, je me suis laissé dire qu'à partir d'un certain point, il y fait tellement noir qu'en levant les yeux vers le ciel, on peut voir les étoiles même en plein jour. Je ne comprends pas très bien ce phénomène physique, mais c'est un peu l'expérience que nous fait vivre le prophète Michée sur le plan politique concernant le royaume de Juda. Après nous avoir emmenés tout en bas avec lui dans la fosse, il nous fait soudainement décoller vers les hauteurs. Jusqu'à présent, sa prophétie a surtout parlé des crimes et des châtiments des Israélites et de la destruction des deux royaumes, bien que, même dans les plus profondes ténèbres, nous avons aperçu un rayon de lumière pendant quelques instants. Avec les chapitres 4 et 5, nous arrivons à une charnière du livre parce que Michée va prophétiser la gloire future du royaume israélite de Juda. Le seul légitime, car ses rois sont issus de la dynastie de David. Cependant, Michée mentionne encore le jugement à venir, car il est inévitable, parce que l'Éternel doit purifier son peuple et que seul un petit reste de rescapés entrera dans le royaume. Les chapitres 4 et 5 commencent tous deux comme une belle journée ensoleillée. Puis soudainement arrivent de lourds nuages et la tempête du jugement se déchaîne. Cette partie centrale du livre de Michée se compose de deux discours. Un au chapitre 4 et un au chapitre 5. Tous deux développent la même pensée. Jérusalem et Juda Israël connaîtront la gloire parce que Dieu l'a promise. Mais ce salut ne se réalisera qu'après de grandes détresses. Dans le deuxième discours du chapitre 5, Michée présente le libérateur, celui qui relivra Israël, c'est-à-dire le royaume de Juda. Chacun des deux discours se compose de deux strophes. Le premier du chapitre 4 décrit la gloire finale de Jérusalem, centre du royaume de Dieu sur terre à la fin des temps. La seconde strophe du chapitre 4 rappelle les angoisses de l'exil qui affligeront Israël avant que ne sonne l'heure de la victoire. Dans le chapitre 5, la première strophe décrit le rétablissement du peuple de Dieu sous le sceptre du Messie, tandis que la deuxième strophe parle encore du jugement de tout ce qui, en Israël, s'oppose à Dieu et doit donc disparaître avant que la gloire du temple et du peuple de Dieu ne soit révélée. La plus grande partie de l'annonce du relèvement futur d'Israël que Michée prophétise se retrouve presque textuellement au début des prophéties d'Ésaïe, ce qui fait que les spécialistes se demandent lequel des deux prophètes a copié sur l'autre. Le tableau prophétique peint par Michée se marie bien avec ce qui précède et ce qui suit. Et il est plus complet que celui d'Ésaïe, qui est abrégé et donne l'impression d'avoir été tiré d'ailleurs. Il est donc peu probable que Michée ait copié Ésaïe. Mais ce dernier n'a pas non plus puisé son inspiration dans Michée, puisque, d'après un passage du livre de Jérémie, Michée a donné cette prophétie sous le règne d'Ézéchias. Par conséquent, plus tard que celle d'Ésaïe, il a commencé son ministère avant Michée. Il ne reste donc qu'une autre possibilité. Tous deux ont emprunté ce passage à un prophète plus ancien qui est Joël, parce qu'on retrouve une portion de la prophétie commune à Ésaïe, Michée chez Joël. Il semble donc que le Saint-Esprit ait inspiré les mêmes paroles à plusieurs prophètes, ce qui est certainement fait plusieurs fois dans l'histoire prophétique d'Israël. Cependant, on sait aussi que beaucoup de prophètes de l'Éternel n'ont rien écrit et que leurs oracles circulaient. Il est donc probable qu'Ésaïe, Michée, Joël et d'autres se soit inspiré de ses prophéties orales. C'est en tout cas ce qui expliquerait la formule antique « la bouche de l'Éternel a parlé » qu'on trouve dans les écrits d'Ésaïe et de Michée. De toute façon, ce qui est important pour nous est de savoir que les livres prophétiques qui nous sont parvenus portent l'imprimatur du Saint-Esprit. Je commence maintenant de lire le chapitre 4 de Michée. Mais, à la fin des temps, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie sur la tête des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. Comme je l'ai déjà fait remarquer, par ces contrastes saisissants, Michée nous donne le vertige. Après que dans le dernier verset du chapitre précédent, sa prophétie se termine au fond du gouffre avec Jérusalem détruite et la colline du temple labourée comme un champ. Soudainement, la prophétie s'envole pour s'élever au-dessus des montagnes. Cette résurrection du royaume de Juda est introduite par la particule, mais à la fin des temps, ce qui veut dire qu'il est impossible que le temple auquel sont attachées les plus grandes promesses de l'Éternel puisse rester en ruine indéfiniment. Jérusalem est construite sur une hauteur dominée à l'est et au sud par les montagnes voisines. À l'est de la ville se trouve Morija, la colline sur laquelle est bâti le temple et sur laquelle Abraham offrit son fils en sacrifice à l'Éternel. Morija prit le nom de Sion, mais avec le temps, cette désignation s'étend à la ville sainte dans sa totalité, ce qui fait que la montagne du Temple et Jérusalem sont souvent confondues dans les prophéties. En parlant de la fin des temps, Michée quitte la situation présente et déprimante du royaume de Juda pour regarder au loin, au travers des siècles et même des millénaires, et voir ce qui arrivera au terme de l'histoire humaine, quand Dieu viendra pour juger ce monde et y régner. L'expression « la fin des temps » désigne les temps messianiques, ce qui inclut les 7 ans de tribulation qui prendront fin lorsque Jésus reviendra pour vaincre ses ennemis et instaurer son règne de 1000 ans. C'est alors que se réaliseront toutes les promesses de Dieu. Mais la fin des temps est une seconde signification qui correspond à la période qui s'étend de la première à la seconde venue du Seigneur. Et donc, dans ce second sens, nous y sommes déjà. Quand Michée entrevoit la colline du temple élevée au-dessus des montagnes, il utilise un langage figuratif afin de décrire le millénium. Le prophète Daniel aussi voit le royaume de Dieu sous la forme d'une montagne. Il écrit « Une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile, et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble la poussière, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Pendant le millénium, Jérusalem jouera un rôle phare, car la ville sainte sera le pôle d'attraction de tous les habitants de la terre qui viendront pour apprendre à connaître l'Éternel, parce que Israël a le privilège de recevoir la révélation divine. Il est le centre du monde vers lequel viennent tous les peuples pour adorer l'Éternel, le seul vrai Dieu. Jérusalem, que Michée a précédemment montré totalement détruite, nous est maintenant décrite élevée au-dessus des nues et devenue le centre du royaume de Dieu vers lequel affluent tous les peuples. Cette brusque transition entre la triste réalité ici et maintenant et la gloire à venir reflète bien l'espérance des prophètes. Michée franchit d'un bond l'intervalle qui sépare la ruine de Jérusalem et son rétablissement final. C'est souvent face à une tragédie imminente et nécessaire d'Israël que les prophètes proclament avec le plus d'assurance un avenir glorieux. C'est au fond du puits qu'ils distinguent les étoiles parce que le jugement ne peut pas être le dernier mot de l'Éternel au peuple qu'il s'est choisi. Ce qu'il distingue, les vrais prophètes des faux, qui vivent d'une flatterie grossière, c'est qu'ils ne cessent jamais de rappeler qu'Israël doit passer par le jugement purificateur et le chemin de l'exil avant d'atteindre enfin son but glorieux qui est d'être la tête des nations au terme de l'histoire humaine. Les discours de Michée, comme des autres prophètes, ont pour idée centrale l'anéantissement de toute grandeur terrestre face au Dieu unique et vrai dont la manifestation glorieuse est le but suprême de l'histoire. Je continue le texte. Des nations nombreuses viendront et se diront les unes aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. » Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée développe davantage l'idée précédente du peuple qui afflue en direction de Jérusalem en ordre serré, comme dans une procession. Quand Michée écrit ces lignes, et aujourd'hui encore, la situation du monde est à des années-lumière de l'accomplissement de cette prophétie. Au mieux, les Israéliens modernes sont indifférents à Jésus-Christ. Au pire, ils le haïssent. Quant aux nations du monde, elles n'ont que de haine pour les Juifs, à l'exception des États-Unis, qui sont peut-être bien leur seul allié, et encore. C'est uniquement pour des raisons politiques. Le mont de l'Éternel, le temple du Dieu de Jacob, Sion, Jérusalem, sont ici des termes synonymes. Ce lieu saint est dorénavant celui qui domine tous les autres, du moins spirituellement, car c'est là que réside le Messie. Toutes les nations reconnaissent en lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est la vérité et le seul vrai Dieu. Ce n'est pas la contrainte, mais le désir de connaître l'Éternel qui pousse les peuples à se rendre en masse à Jérusalem, source de salut pour le monde entier. Jean rapporte que, à la femme samaritaine, Jésus a dit « Le salut vient des Juifs ». Cet empressement à venir dans la ville sainte est expliqué par Michée quand il dit « De Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel ». Le prophète annonce ainsi la conversion des païens qui obéissent à la parole de Dieu, c'est-à-dire à ses lois morales, et qui, en Jésus-Christ, adore l'Éternel, le Dieu unique et véritable. Jérusalem est le centre névralgique et stratégique du monde. C'est dans la ville sainte que Jésus a mis en œuvre le plan du salut, qu'il est mort et ressuscité, et c'est de Jérusalem qu'il a quitté ce monde. C'est encore là que les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit et mandatés pour faire connaître la bonne nouvelle à tous les hommes, à commencer par Jérusalem. Depuis que les Hébreux sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, en Israël, les deux systèmes politiques et religieux sont fusionnés. L'ensemble des 12 tribus, en réalité 13, puis le royaume uni, puis les deux royaumes de Juda au sud et des 10 tribus au nord, ont toujours été des États théocratiques, comme l'Iran aujourd'hui. Le roi et les prêtres reçoivent alors la même onction divine, le premier pour gouverner et les seconds pour officier de culte de l'Éternel. Pendant le millénium aussi, les deux systèmes politiques et religieux seront confondus. Je continue le texte. Et il, l'Éternel, sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leur épée, ils forgeront des socles pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors, au temps de Michée, les classes dirigeantes de Juda ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Le jour viendra où tous les peuples auront ce désir et se soumettront à l'Éternel. Pendant le millénium, un gouvernement juste remplacera tous les systèmes politiques corrompus actuels et les nations accepteront l'arbitrage du roi. Ils ne régleront plus leurs querelles par les armes, mais accepteront ses décisions. Tout conflit cessera et la paix universelle sera établie sur toute la terre. Le prophète Zacharie écrit « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de fer et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples, sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Pendant le millénium, la paix régnera non seulement entre les nations et les individus, mais aussi entre les animaux, et entre eux et les hommes. Le prophète Ésaïe écrit « Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les amènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. L'Évangile est une bonne nouvelle parce qu'elle annonce la paix et l'amour qui, un jour, remplaceront la guerre et les haines. Mais avant d'en arriver là, il y aura encore beaucoup de conflits armés et en particulier la bataille d'Armageddon qui aura lieu juste avant la seconde venue du Christ et pour laquelle tout le potentiel humain sera transformé en armement. Le prophète Joël écrit « Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers, oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat, que vos socles formés des épées, de vos faucilles, des lances, que les plus faibles clament « Moi, je suis un héros, hâtez-vous et venez, vous tous les peuples, de partout, rassemblez-vous. » Michée et les autres prophètes mentionnent les armes et les outils agricoles de leur temps pour exprimer, dans un langage concret et vivant, qu'on ne fera plus la guerre. Contrairement à ce qui se produit habituellement, les ressources et les capacités technologiques humaines ne seront plus utilisées par les hommes pour s'entretuer, mais serviront à des activités louables, utiles et bienfaisantes. Je continue le texte. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui l'a parlé, le Seigneur des armées célestes. Dans son tableau du millénium, parallèle à celui de Michée, le prophète Ésaïe omet ce verset. Habiter en paix sous sa vigne et son figuier est une expression proverbiale qui décrit la tranquillité, la sécurité et la prospérité. C'est l'aspiration de pratiquement tous les êtres humains, mais jusqu'à présent, ils ont été incapables de la réaliser. Comme le millénium est le règne du prince de paix. Le peuple de Dieu n'est évidemment plus victime de l'hostilité des puissantes nations païennes, et chaque croyant peut goûter les bienfaits de la paix. Cet état de bonheur quasi parfait était l'une des bénédictions promises au peuple hébreu, s'il obéissait à la loi. On connaît la suite, la nation d'Israël a eu un avant-goût de cette béatitude sous le règne de Salomon. Dans le premier livre des Rois, on lit que, pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Se dit en passant que le dernier ordre mondial ne verra pas un État posséder toutes les propriétés, mais que chacun continuera à jouir paisiblement de son patrimoine personnel. Au temps de Michée, par contre, c'est la loi de la jungle qui règne. Et les prophètes de mensonges annoncent faussement cette paix et cette prospérité à qui veut bien leur graisser la patte. Michée conclut ce paragraphe en disant littéralement « La bouche de l'Éternel a parlé ». Comme je l'ai déjà dit, cette formule antique semble indiquer que cet oracle provient d'un prophète antérieur. En rappelant que c'est la bouche de Dieu qui a déclaré ces paroles, Michée donne à ses auditeurs la plus infaillible preuve de cette prophétie, elle se réalisera. Je continue le texte. Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, à toujours et à jamais. Marcher au nom de l'Éternel signifie vivre en lui obéissant. La situation idéale décrite par Michée ne s'est pas réalisée en son temps ni d'une autre. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ouvrir le journal, écouter la radio ou la télé, ou aller sur un site internet d'information. Tous les êtres humains marchent au nom d'une divinité. Ceux qui n'ont pas courbé l'échine devant le Dieu unique et véritable adorent forcément des idoles. Elles peuvent revêtir bien des habits différents, allant d'une statue de plâtre à un œil, en passant bien sûr par Mammon, le dieu de l'argent, qui semble être la divinité la plus prisée et en vogue et la plus honorée. Et vous, devant quoi ou qui vous courbez-vous bien bas ?